Bonjour à tous. C'est difficile de parler sans voir les personnes. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et des questions pourront être posées à la fin de ce matin ou à la fin de cet après-midi ou les deux, comme c'est prévu avec Marie-Thérèse et Eric. Je commence donc la première partie de la première partie. Je ferai quatre morceaux. L'enseignement de ce matin en deux morceaux, l'enseignement cet après-midi en deux morceaux, de façon à ce que ça soit plus vite transmis. Introduction de la première partie ce matin. Je veux voir Dieu. Telle est l'aspiration profonde de tout chrétien, et on peut le penser de tout être humain pendant notre vie terrestre. Sans doute on peut parler d'une sorte de nostalgie plus ou moins consciente qui habite tout cœur humain. C'est pas étonnant alors que le bienheureux père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, le fondateur de l'Institut Carmélitain Notre-Dame de Vie, ait choisi ce titre thérésien, « Je veux voir Dieu », pour le volumineux ouvrage dans lequel il retrace les différentes étapes de la vie spirituelle, telles qu'elles sont décrites par sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix. Je reviendrai dans un instant sur la classification des demeures dont parle la fondatrice du Carmel des Chaussées, en les comparant à d'autres classifications. En premier lieu, je m'attarderai un instant sur un passage de la Genèse auquel je suis particulièrement sensible, peut-être à cause de l'épisode de santé que je viens de traverser. Il s'agit de Genèse 32, 23, 33, un texte bien connu. Il s'agit de ce passage quelque peu énigmatique qui décrit un combat que Jacob a livré toute une nuit avec un être mystérieux. Un quelqu'un, dit le texte original, ou un homme. Au verset 26, nous lisons « Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche. » Et la hanche de Jacob se démit, alors qu'il luttait avec lui. L'être mystérieux dit à Jacob, « Lâche-moi, car l'aurore est levée. » Mais Jacob ne s'en laisse pas compter. Il veut que ce personnage divin le bénisse. Finalement, ce dernier accepte de le faire, mais il veut à son tour, semble-t-il, connaître le nom de son adversaire. Il le sait très bien, en fait. Jacob ayant répondu, « Je m'appelle Jacob », vient une déclaration de grande importance. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et les hommes, et tu l'as emporté. Jacob insiste, « Révèle-moi ton nom. » Mais il répondit, « Et pourquoi me demandes-tu mon nom ? » Sous-entendu, puisque tu l'as bien deviné depuis le début. L'être divin ne donne donc pas son nom, mais il bénit Jacob. Sans hésiter, aussitôt, Jacob donne à cet endroit le nom de Pénuel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Et l'on sait que dans l'Ancien Testament, voir Dieu face à face, normalement, c'est mourir. Peut-être estimerez-vous que j'extrapole, mais il me semble voir dans ce récit un écho de cette nostalgie, de ce désir profond d'une communion avec Dieu, d'une communion dont il reste, semble-t-il, une marque physique, comme le précise la fin du texte. Au lever du soleil, Jacob avait passé Pénuel et il boitait de la hanche. C'est pourquoi les Israélites ne mangent pas jusqu'à ce jour le nerf sciatique qui est à l'emboîture de la hanche, parce qu'il avait frappé Jacob à l'emboîture de la hanche, au nerf sciatique. Fin de citation. S'il fallait trouver une justification supplémentaire au choix de ce texte biblique pour introduire notre sujet d'aujourd'hui, l'union, je signalerai qu'une gravure représentant cette lutte de Jacob a été choisie pour illustrer la couverture du petit livre de Hans-Urs von Balthasar sur la prière contemplative. Il y a plusieurs autres échos de ce type de rencontre avec Dieu dans le Premier Testament. Nous les évoquerons ici ou là en première partie. Observons pour l'instant que si l'union est bien le terme du chemin mystique, il y a effectivement plusieurs manières de présenter les étapes successives qui y conduisent. Le plan choisi par frère Jean-Claude pour cette retraite correspond à celui proposé par les pères de l'Église à la suite de Denis l'Aréopagite. Premièrement, la voie purgative, purification. Deuxièmement, la voie illuminative, illumination. Troisièmement, la voie unitive, union. La déclinaison que proposent les réformateurs du Carmel est beaucoup plus détaillée, et je reprends ici les grandes lignes du tableau qui figure sur le feuillet qu'a inséré le père Marie-Eugène dans son livre « Je veux voir Dieu ». Il y a deux phases. Une première phase, Dieu intervient par le secours général. Dans cette première phase, il y a trois demeures. Première demeure, vie spirituelle presque éteinte. Deuxième demeure, effort vigoureux et douloureux d'ascension. Troisième demeure, triomphe de l'activité raisonnable. Puis une deuxième phase, où Dieu intervient par le secours particulier. Introduction de cette deuxième phase, Dieu intervient progressivement dans l'âme par les dons du Saint-Esprit. Il l'envahit jusqu'à la transformation d'amour. Alors, il y a 4, 5, 6, 7, il y a de la quatrième à la septième demeure dans cette deuxième phase. Quatrième demeure, nuit du sens, quiétude. Présence intérieure de Dieu, manifestée par une lumière aveuglante qui en fait est une nuit, par une emprise savoureuse, un recueillement passif, la quiétude. Cinquième demeure, c'est l'union de volonté. Dieu exerce une emprise habituelle sur la volonté humaine, parfois après une grâce d'union mystique. Sixième demeure, c'est la nuit de l'esprit, la formation du saint et de l'apôtre. Dieu purifie et enrichit par ses touches dans l'esprit et dans les facultés opératives. Septième demeure, c'est l'union transformante, envahissement divin complet, utilisation pour l'Église. Comme on peut le voir au sens strict, l'union correspond seulement à la septième étape, les septièmes demeures. Mais il y a une progression vers cette union parfaite à partir des cinquièmes demeures, voire peut-être des quatrièmes. Il faut donc prendre garde de ne pas rendre trop rigide un processus qui, par essence, est profondément dynamique. Le père Marie-Eugène lui-même semble suggérer. Il en va de même pour Don Anselm Stolz, un moine bénédictin auteur d'un ouvrage intitulé « Théologie de la mystique » publié à Chevetogne en 1947. L'auteur est décédé en 1942. On précise que cet ouvrage, qui est introuvable aujourd'hui, m'a été prêté par le frère Jean-Claude. Vous me pardonnerez peut-être de suivre presque pas à pas la démarche de cet ouvrage, mais il me semble très riche et parfois complexe. Pour vous faire sourire, en attendant, il existe une version du jeu Monopoly, à destination des carmélites, qui intègre les demeures thérésiennes. Les moniales peuvent y jouer pendant un temps de récréation. Comme dans le Monopoly, il s'agit de réussir à acquérir le meilleur. Ici, il s'agit de progresser de demeure en demeure. On m'a raconté l'histoire, et je crois qu'elle est vraie, d'une vieille carmélite qui, après avoir dans ce jeu réussi à atteindre la sixième demeure, a levé les bras en disant « Oh là là, il ne faut pas trop se réjouir trop vite, je peux très bien au prochain tour me trouver à rétrograder. » C'est ce qu'on pourrait appeler la sagesse des anciens ou des anciennes. Pour redevenir sérieux, je propose d'organiser la réflexion de cette journée en quatre temps ou parties. Premièrement, qui peut prétendre avoir atteint cette union mystique pendant sa vie terrestre? Deuxième partie, pour nous chrétiens, toute l'expérience spirituelle, et a fortiori l'expérience mystique, ne peut être que centrée sur le Christ. Troisième point, cet après-midi, mais bien sûr c'est l'Esprit Saint qui l'a conduit cette expérience tout au long par son onction puissante. Et enfin, quatrième partie, assez courte, et l'union intime avec le Christ, conduite par l'Esprit Saint, fait retentir dans le cœur de la personne mystique l'appel du Père. Je traiterai donc les deux premiers points ce matin, les deux autres cet après-midi. première partie pour ce matin. Qui peut prétendre avoir atteint l'union mystique dans sa vie terrestre? Pour vous faire sourire à nouveau, en nous souvenant de l'épisode du combat de Jacob avec Dieu, il ne suffit pas de boiter de la hanche pour atteindre l'union mystique, sinon j'aurai moi-même une chance. Très logiquement, on regardera d'abord la Sainte Écriture, avant d'évoquer ici ou là le cas des grands saints de l'Église qui l'ont fait comprendre. Première sous-partie dans cette première partie, les larmes d'Adam. Vous connaissez peut-être le texte de saint Silouane de Latos qui parle de ce sujet, les larmes d'Adam. Adam erre, une fois chassé du paradis perdu, avec la nostalgie de cette profonde communion avec Dieu dont il jouissait avant de commettre sa faute. Le père Stolz aborde cette question dans le troisième chapitre de son ouvrage. Il commence par citer un épisode de la vie de son saint patron, saint Anselme de Canterbury. Il racontait dans la vie de ce saint que, encore tout enfant, il avait été, une nuit, transporté en rêve dans la demeure du roi des cieux. Le roi l'y reçut fort aimablement et, je cite, à la demande du Seigneur lui-même, un écuyer lui avait apporté un pain resplendissant pour qu'il s'en nourrît en sa présence. Fin de citation de la vie de saint Anselme. Le père Stolz poursuit, l'enfant resta fermement convaincu qu'il avait été au ciel et qu'il y avait été réconforté par le pain du Seigneur, autrement dit, le pain eucharistique. Mais qu'en était-il donc de ce paradis qu'ont habité nos premiers parents à l'aube de la création? D'abord, selon la tradition, il s'agit d'un séjour terrestre. C'est l'avis notamment de saint Thomas d'Aquin. Mais où se situait-il sur le globe, ce paradis terrestre? Pour saint Thomas, il est dans une contrée éloignée, désormais inabordable, parce que, à cause de la faute des premiers parents, il est entouré d'un cercle de feu, et soigneusement gardé par les chérubins. Cependant, il a quand même quelques rares habitants qui sont cités dans la Bible. Par exemple, Hénoc et Élie, puisque ces deux personnages sont présentés comme ayant été transportés. On se rappelle du texte dans l'enlèvement d'Élie dans un char. Jusqu'au XVIe siècle, les Juifs, tout comme les chrétiens, jugeaient, dit le père Stolz, hérétique, la négation de la persistance du paradis matériel. Ils y croyaient dur comme fer. Cela peut nous surprendre aujourd'hui, mais il est clair, par exemple, que la promesse que fait le Christ au bon larron, « En vérité, tu seras aujourd'hui même avec moi dans le paradis », Luc 23, 42, eh bien, cette promesse ne pouvait être interprétée par un contemporain juif de Jésus que comme désignant le paradis matériel de nos premiers parents. Le lieu du paradis existe bien dans cette perspective, mais il est inaccessible aux hommes, à moins qu'une grâce exceptionnelle ne leur soit accordée, comme le fut à Hénoch, ou encore à saint Paul, ou à Élie, on a dit, comme on le verra à saint Paul, qu'on verra tout à l'heure. Observons que beaucoup dans l'Église, ont très longtemps opéré une nette distinction entre paradis et royaume. Le paradis était nécessairement terrestre, bien qu'inaccessible, jusqu'à la descente du Christ aux enfers et sa résurrection. Tandis que le royaume, c'était ce lieu, ou plutôt cet état, dans lequel précisément le Christ a introduit le bon larron avec lui auprès du Père. Ainsi, saint Jean Chrysostome, dans un ouvrage intitulé « De la croix et du larron », « De cruce et latrone », dit « Maintenant, au jour de la mort du Seigneur, Dieu nous a ouvert le paradis, qui était fermé depuis plus de 5000 ans. Aujourd'hui, à cette heure même, il y a introduit le larron et a accompli ainsi une double œuvre. Premièrement, ouvrir le paradis. Deuxièmement, y introduire ensuite le larron. » Fin de citation. Le paradis est donc redevenu accessible. Adam peut y rentrer, et avec lui les justes de l'ancienne alliance, qui attendaient dans les enfers, l'heure de la rédemption. D'après les anciens, En tant que l'œuvre rédemptrice restituait notre union avec Dieu rompue par Adam et Ève, la voie de la sanctification menait tout d'abord au paradis. C'est ce que dit par exemple Origène dans son ouvrage des Principes. Mais comme la grâce du Christ le dépassait de loin, il ne pouvait pas être la résidence définitive des rachetés, ce paradis. Pour saint Ambroise, par exemple, le paradis constitue la région inférieure, d'où les élus, chacun selon ses mérites, monteront vers les différentes régions plus élevées du ciel. Une mystique du XIVe siècle, nommée Marguerite Ebner, ayant prié le vendredi saint de l'année 1342 pour une âme défunte, s'exprime comme suit. « Et il me fut accordé de la part de Dieu qu'elle serait en ce jour, cette âme, dans le paradis, qu'elle devrait y attendre la fête de la résurrection jusqu'au jour de Pâques, et qu'alors seulement elle entrerait dans les joies éternelles. » Dans cette perspective, y aurait-il des différences dans la vision béatifique entre le paradis et le royaume? Ce n'est pas sûr, mais il y aurait au moins des différences extérieures notables. En invoquant ainsi le fait majeur de la résurrection du Christ, nous sommes amenés à aborder la deuxième partie de notre propos de ce matin. Deuxième partie, pour nous chrétiens, toute l'expérience spirituelle, et a fortiori l'expérience mystique, ne peut être que centrée sur le Christ. Commenterai par un paragraphe sur la rencontre de Saul de Tarse, avec le Christ. Le père Stolz prend cette rencontre comme point de départ de son analyse dès son premier chapitre, en s'appuyant sur cette expérience mystique indéniable qui est présentée dans la Sainte Écriture par celui qui, selon ses propres dires, l'a vécu, à savoir l'apôtre saint Paul. Nous savons, grâce au chapitre 9 des Actes, que celui-ci fit une rencontre déterminante sur la route de Damas, alors qu'il s'apprêtait à aller dans cette ville pour y persécuter les chrétiens. Le récit des Actes est celui-ci. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu »« Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. Et lui, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, précise les Actes des Apôtres, mais sans voir personne. Saul se releva de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. 3 jours durant, il resta sans voir, ne mangeant rien, ne buvant rien. Ce récit des Actes nous fournit déjà de précieuses indications. Mais il nous présente l'expérience de Saul, devenu Paul ensuite, comme de l'extérieur, comme si nous étions associés aux compagnons de route. On comprend bien qu'il s'agit d'une expérience très exceptionnelle, d'une sorte d'illumination soudaine qui est si forte qu'elle rend aveugle les yeux du personnage. Les 3 jours de nuit et de jeûne total nous rappellent évidemment la Semaine Sainte, le Triduum. Mais ailleurs, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul va aussi nous donner lui-même un compte-rendu de l'événement vu par lui de l'intérieur. C'est en Corinthiens, 2e aux Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 9, je cite. « Il faut se glorifier. Cela ne vaut rien pourtant. Eh bien, j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce en son corps, je ne sais. Était-ce hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là, était-ce en son corps, était-ce sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, Je dirai la vérité, mais je m'abstiens, de peur que ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Ce texte est riche d'enseignements. Remarquons tout d'abord l'expression « dans le Christ », qui situe immédiatement l'événement dans la grâce du Christ. En second lieu, Paul parle de lui-même lors de cette expérience en termes de cet homme-là, se mettant pour ainsi dire à distance du Paul de la vie courante. De surcroît, il invoque un silence nécessaire à propos de ces paroles ineffables qu'il lui a été donné d'entendre. Il ne veut pas non plus qu'on le prenne pour ce qu'il n'est pas. Je m'arrête un instant et on reprend ensuite avec un paragraphe qui s'intitulera « Que signifie exactement la phrase ou l'expression « dans le Christ » ?» Que signifie exactement « dans le Christ » L'expression de saint Paul au moment où il relate son expérience sur le chemin de Damas. Le père Stolz commente ainsi cette expression. Dans le Christ, pour saint Paul, cela signifie appartenant à l'ordre de vie qui a été inauguré avec le Christ. Depuis Adam, nous sommes déchus de notre vraie destinée qui est soumise au péché, à la mort. Mais celui qui a foi dans le Christ est libéré de ces maux. Les entraves purement terrestres qui le retenaient par suite du péché d'Adam tombent d'elles-mêmes. Et d'emblée, il est transporté, c'est le mot de Paul, transporté dans une autre ambiance. Dans le Christ, qui est le second Adam, une humanité nouvelle a commencé. Comme tous meurent en Adam, ainsi tous seront vivifiés dans le Christ, dit encore Paul dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Le chrétien, par suite, a donc pour tâche d'imiter le Christ en tout, dans sa mort comme dans sa résurrection. Comme le dit encore l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, Romains 6, 6 à 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Anselme Stolz poursuit et commente « Comme membre du corps du Christ, le fidèle éprouvera le sort du Sauveur. Il sera crucifié avec lui, il mourra avec lui, il sera enseveli et ressuscité avec lui. » C'est là l'imitation du Christ dans le sens paulinien et dans sa signification théologique la plus profonde. Fin de citation. Alors tout cela se produit dans et par le sacrement initial, le sacrement du baptême. Il est parfois difficile, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois en baptisant des petits-enfants, parfois difficile de mettre un pareil mystère en lumière pour les familles qui font baptiser leurs enfants, parfois même pour les adultes eux-mêmes. Et pourtant, ce passage que décrit Paul est bien réel. Le baptisé devient comme le Christ, mort à la chair, mot paulinien par excellence, au monde, mot qui est plus joannique, et au péché. D'où cette formule très frappante de saint Paul en Romains 6,5 « Nous avons été greffés sur le Christ par la ressemblance de sa mort. » Alors en commentant ces passages de saint Paul, saint Ambroise, évêque de Milan, dans une homélie sur le bien et la mort, que nous avons pu lire ou entendre le samedi matin de la 31e semaine du temps ordinaire, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Donc saint Ambroise va jusqu'à dire la chose suivante. Quand nous aurons quitté cette terre, il n'y aura plus en nous la contradiction apportée par ce corps de mort, mais il y aura dans ce corps de mort la victoire. Et je me demande moi-même si cette mort-là n'aurait pas plus de force que la vie. Mais oui, je suis poussé par l'autorité de l'apôtre qui dit « La mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous. » La mort d'un seul a engendré la vie de combien de peuples ? C'est pourquoi, dit encore Ambroise, saint Paul enseigne que ceux qui vivent ici-bas doivent désirer cette mort-là pour que la mort du Christ transparaisse dans notre corps. Cette mort-là, c'est la mort bienheureuse, par laquelle l'homme extérieur tombe en ruine pour que l'homme intérieur se renouvelle et notre demeure terrestre se détruit. Citation de Paul, l'homme extérieur tombe en ruine pour que l'homme intérieur se renouvelle et notre demeure terrestre se détruit, pour que notre habitation céleste nous soit ouverte. Et Ambroise continue. Il imite donc la mort, celui qui s'éloigne des relations de la chair et se débarrasse de ses liens, dont le Seigneur te dit par le prophète Isaïe, citation d'Isaïe, « Défais tous les liens injustes, délie les obligations nées de contrats imposés, libère les opprimés et détruit toutes les fraudes iniques. » Fin de citation de saint Ambroise. Donc, même si cette mort spirituelle qui est vécue dans le baptême est bien réelle, elle est bien acquise une fois pour toutes, l'apôtre Paul invite cependant les communautés auxquelles il écrit à mourir encore, à poursuivre l'effort que le baptême a permis de commencer, a permis d'initier. Nous lisons en Colossiens 3:9 « Dépouiller le vieil homme avec ses œuvres ». Il s'agit, faisant cela, de revêtir progressivement le Christ. Revêtir le Christ, expression que l'on trouve en Galates 3:27 ou encore en Romains 13:14. Il y aura donc pour le chrétien un combat ardent pour être assimilé progressivement, pleinement au Christ. C'est ce qu'on appelle l'ascèse. L'ascèse sera donc partie intégrante de l'expérience spirituelle, quelle qu'elle soit. Elle sera, comme le dit le père Stolz, continuation et achèvement de la mort du Christ dans chaque homme en particulier. Saint Paul dit encore, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Trouvons cette citation en 2 Corinthiens 4, 10 et suivante. Et ce faisant, cette communion à la résurrection du Christ devient elle aussi, dès cette vie, une réalité pour ceux qui sont fidèles. Comme l'explique un commentateur allemand, Joseph Schneider, cité par le père Stolz, à cause de cette union et parce qu'il possède la communauté de membres avec le Christ, vie et splendeur affluent maintenant déjà dans le chrétien. Dans la passion, le fidèle reçoit sa transfiguration. Un corps nouveau, pneumatique, croît et mûrit déjà à l'intérieur de cet éon. Bien que l'homme extérieur, physique, soit en butte aux souffrances et aux contretemps de toutes sortes, l'homme intérieur est renouvelé chaque jour. Un changement s'opère en lui, il se parfait petit à petit. Fin de citation du père Schneider dans un ouvrage ancien intitulé « Le mystique de la passion chez Paul ». et Anselm Stolz de poursuivre en parlant d'une triple mort et d'une triple résurrection dans le chrétien authentique. Voilà ce qu'il dit. Le baptême fait que le baptisé meurt au monde, au péché et à la chair, et qu'il ressuscite à Dieu dans le Christ. La vie chrétienne est à son tour une mort ininterrompue du vieil homme et une croissance du nouveau. La mort corporelle, enfin, dépouillera l'homme à tout jamais du corps du péché, après quoi la splendeur du corps pourra se manifester dans toute sa perfection. Fin de citation. Remarquons au passage que la distinction entre corps pneumatique et corps physique fait aussi d'une certaine façon écho à une autre distinction opérée par les théologiens de l'école égyptienne d'Alexandrie qui opposait celui qu'ils appelaient le pistikos, pistis c'est la foi, donc le simple croyant, au pneumatikos, c'est-à-dire celui qui est inspiré par l'esprit, le chrétien mystique. Troisième paragraphe dans cette partie, quelles sont les caractéristiques de la mystique chrétienne ? En conséquence, continue le père Stolz, la mystique chrétienne sera toujours une mystique du Christ. La mystique chrétienne se distinguera donc sans cesse, radicalement, des mystiques que l'on qualifie parfois de naturelles ou encore de celles d'autres traditions religieuses. Comment les mystiques juifs, par exemple les kabbalistes, comment les mystiques musulmans, par exemple les soufistes, et comment les mystiques des religions orientales telles que le bouddhisme, avec toutes ses variantes, par exemple le bouddhisme zen, le bouddhisme nichiren, etc., ou bien encore les mystiques hindouistes, vont-ils réussir à rejoindre Dieu ? C'est une question que je n'aborderai pas, c'est un sujet complexe. Mais je vais me contenter d'une ou deux observations bibliographiques. D'abord, pour les mystiques juifs, si vous ne connaissez pas du tout, on peut toujours consulter les ouvrages anciens mais très précis et documentés de Gershom Scholem. Et pour les mystiques extrêmes orientales, eh bien pour nous chrétiens, il est très précieux de lire les livres du père Jacques Verlaine, que vous connaissez sans doute. Jacques Verlaine qui s'était autrefois aventuré dans ce domaine des mystiques orientales, extrêmes orientales, avant d'opérer une conversion spectaculaire. Verlaine met à juste titre fortement en garde les chrétiens contre le fait, eux, de s'aventurer à leur tour là-dedans. Il montre qu'ils risquent très fortement de laisser ouvrir ce qu'on appelle des portes ou des chakras, comme on voudra, par lesquels les démons peuvent allègrement pénétrer dans la personne. Et le frère Jean-Claude, si vous lui posez la question, pourra largement confirmer la chose par son expérience d'exorciste. Un aspect très frappant de la mystique chrétienne est son caractère sacramentel. Il suffit, ce qui n'est pas le cas évidemment d'autres mystiques, il suffit de lire la vie de plusieurs grandes figures de la tradition chrétienne, telles que les saints franciscains, que nous connaissons, ou les saints carmélitains, pour comprendre que les sacrements de l'Église étaient pour eux essentiels. Nous avons déjà parlé du baptême tout à l'heure, mais bien entendu, il y a la confirmation qui est, on peut dire, le sacrement complémentaire du baptême, prolongement du baptême, ainsi que le sacrement de réconciliation et l'Eucharistie. Je laisse l'ordre de côté pour l'instant en tout cas. L'Esprit Saint, qui éclaire de sa puissante lumière toute la vie du mystique, eh bien, à cause de cela, comme il le fait, la moindre petite tâche devient un obstacle énorme à son avancée spirituelle. Plus on avance, plus ce qui fait ombre fait ombre, si l'on peut dire. Encore faut-il être un peu prudent, même vis-à-vis du sacrement de réconciliation. On sait que sainte Thérèse d'Avila était très inquiète si l'une de ses sœurs passait trop de temps confessionnal, surtout si le confesseur était bel homme. On dit même que lorsque la confession se prolongeait un peu trop, il arrivait à la sainte de tirer la sœur hors du confessionnal par les pieds. Naturellement, le sacrement majeur, c'est, nous le savons, l'Eucharistie. Pour manifester l'union intime du ou de la mystique avec le Seigneur dans l'Eucharistie, que ce soit la célébration de la messe ou l'adoration du Saint-Sacrement, Dieu a permis que certains ou certaines mystiques soient stigmatisés. Le premier dans l'histoire, nous le savons bien, c'est notre Père Saint-François. Le Père Stolz soutient que la stigmatisation de Saint-François est comme un rappel dans l'histoire. Voici ce qu'il affirme. Ce n'est donc point un hasard que l'histoire des stigmates commence à l'époque de Saint-François d'Assise, où la mystique courait justement le danger de se détourner des mystères douloureux. En effet, les historiens montrent que les mouvements ou les sectes prétendant mener une vie parfaite, comme les cathares par exemple, il y en a d'autres, foisonnaient au début du XIIIe siècle, toutes sortes de mouvements de pauvreté et qui visaient la perfection. Le chiffre des stigmatisés que donne Stolz, évidemment, est fonction de son décès en 1942. Et naturellement, il dit ce qu'il connaissait à la période. On compte, dit-il, depuis Saint-François, 321 stigmatisés. Parmi eux, chez lesquels on peut dire qu'il y a eu d'intervention divine. Alors parmi eux, il y aurait 41 hommes, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de femmes, et 62 ont été béatifiés ou canonisés. Depuis les années 40, nous le savons, il y a eu d'autres stigmatisés notoires. Nous connaissons naturellement le saint Padre Pio, capucin, du sud de l'Italie, Giovanni Rotondo, ou encore la sœur Marie-Aimée de Malétroit, dans le Morbihan, en Bretagne. Mais il y en a sûrement d'autres. Bien souvent, ceux qui reçoivent cette grâce souhaitent la cacher, ou souhaitent dire qu'il s'agit seulement d'une manière pour le Christ de leur rappeler combien ils sont pécheurs. C'est notamment le cas d'un prêtre indien salésien que Régine et moi avons eu l'occasion de côtoyer, peut-être d'autres personnes parmi vous, le père James Manjakal, qui est bien connu dans les milieux du renouveau charismatique. Une autre caractéristique, il lui dit toujours qu'il n'a pas les stigmates, mais que c'est pour lui rappeler son péché et souffrir un peu avec le Christ en réparation. Une autre caractéristique de la mystique chrétienne, c'est l'impression que donnent certains ou certaines à la suite de saint Paul d'avoir été transportés ou arrachés à ce monde de la terre pour un temps indéterminé. Le père Stolz estime que le phénomène de la lévitation est une sorte de symbole de cet événement. Bien des cas de cette sorte ont été répertoriés, singulièrement chez le Padre Pio lui-même, dès sa jeunesse, ou bien dans la vie de cet autre saint franciscain, un saint très sympathique, qui s'appelle saint Joseph de Cupertino. Cet après-midi, on verra néanmoins que ces phénomènes extraordinaires ne constituent pas l'essentiel de la vie mystique. Et c'est vraiment, on pourrait dire, une sorte de refrain que répète le père Stolz. Et il dit que ça, c'est bien montré par la vie d'autres grands saints qui, entre guillemets, ne font pas de bruit au sens des manifestations extérieures, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, sainte Thérèse de Lisieux, sainte Élisabeth de la Trinité ou encore saint Charles de Jésus. Pour conclure l'enseignement de ce matin, un dernier point peut-être intéressant à regarder. C'est une question que se sont posées certains théologiens. Si on admet que l'union sacramentelle avec le Christ est mystique au sens large, et qu'elle constitue l'essentiel de cette vie spirituelle intense, est-ce qu'il ne faut pas admettre que tous les chrétiens sont appelés à la vie mystique, sans pour autant que tous soient gratifiés de phénomènes extraordinaires? Les avis sont partagés. Le père Stolz cite l'avis d'un célèbre dominicain de Toulouse, le père Réginald Garrigou-Lagrange, qui a vécu de 1877 à 1964, et qui considérait la vie mystique comme, je cite, « le couronnement normal de toute vie chrétienne ». À son avis, la distinction entre vie mystique et non mystique tiendrait en ceci que chez les simples fidèles, ce principe radical, à savoir l'union sacramentelle avec le Christ, se développe plutôt dans le sens des vertus, opérant d'une manière plus humaine, tandis que chez les mystiques, il s'ouvrirait plutôt au don du Saint-Esprit, opérant d'une manière supra-humaine. Fin de citation. Chacun, dit-il encore, grâce à l'union avec le Christ, peut développer en soi le germe reçu au baptême jusqu'à l'expérience mystique. D'autres théologiens ne sont pas d'accord. Je me garderai bien d'émettre un avis. Néanmoins, on peut encore rappeler l'importance de l'Eucharistie tant dans la vie chrétienne que dans la vie mystique. Je remarquais tout à l'heure que le mystique est parfois soustrait à la vie de ce monde, dont l'adversaire de Dieu est le prince. Or, dans l'Eucharistie, s'il y a là encore le père Stolz, l'union future est anticipée, celle que saint Paul avait en vue en disant « Nous serons emportés à la rencontre du Seigneur dans les airs, celle par laquelle nous serons délivrés de ce monde et introduits par le Seigneur dans son royaume. » Il fait référence ici à la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Alors, ce n'est pas nous, membres ou amis de la famille de la Sainte Trinité, qui allons dire le contraire, après avoir vécu tant de liturgies eucharistiques présidées par notre frère Jean-Claude, assistées souvent lors des Pâques par le frère Marcelin. Nous avons souvent, je pense, fait l'expérience d'être, d'une certaine façon, sans être des mystiques confirmés, d'une certaine façon hors du temps. Ce qui est d'ailleurs le point de vue de tous nos frères d'Orient, qui, contrairement à certains de nos paroissiens, n'ont pas toujours l'œil sur la montre pour voir si le rôti va brûler. Véritablement, respecter l'Eucharistie, c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Un autre saint homme, le bienheureux Henri Suzeau, un religieux dominicain du XIVe siècle, qui est connu pour avoir, avec un autre dominicain, Jean Tauler, populariser la mystique rhénane de Maître Eckhart, s'écrit à ce sujet. Je cite « Comme il y a peu d'hommes qui pensent sérieusement à ce qu'ils reçoivent, ils s'approchent, comme les autres, d'une manière quelconque et sans réfléchir, et s'en retournent par conséquent sans grâce, vides, comme ils s'étaient approchés. Ils ne ruminent pas leur nourriture pour méditer ce qu'ils ont reçu. » Fin de citation. Poser la question, est-ce qu'au XXIe siècle, est-ce différent? Alors on peut poser la question sous la forme que l'on a entendue hier dans l'Évangile, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Beaucoup de chrétiens nous disent « Ah d'accord, mais moi je ne suis pas un mystique » ou encore « Attention de ne pas tomber trop vite dans la fausse mystique » et c'est vrai que c'est un danger. Mais la chose que l'on peut au moins répondre à propos de la question posée par les théologiens, c'est peut-être que tout le monde n'est pas appelé à une vie mystique, mais au moins tout chrétien est appelé, d'une certaine façon, à la vie contemplative. Il suffit de penser à l'exemple de grands saints qui sont des modèles de charité, des modèles d'apostolat, comme saint Vincent de Paul. Saint Vincent, on le sait, avant d'aller s'occuper des pauvres, passait 4 heures en oraison. 4 heures en oraison. On peut dire de même à propos de sainte Thérésa de Calcutta. En tout dernier lieu, il faut pourtant rappeler que si beaucoup, ou presque tous, à mener une vie contemplative, quelle que soit leur mission, peu persiste. Comme le dit Hans Urs von Balthasar dans la préface de son livre sur la prière contemplative, que j'ai mentionné en introduction, donc je cite Urs von Balthasar, « Bien des chrétiens connaissent la nécessité et la beauté de la prière contemplative, et ils y aspirent sincèrement. Mais peu, en dehors d'essais tâtonnants bientôt abandonnés, restent fidèles à cette prière, et moins nombreux encore sont ceux qui sont convaincus et satisfaits de leurs efforts propres en cette matière. Une atmosphère de découragement et de pusillanimité entoure, dans l'Église, la contemplation. Nous voudrions bien, mais nous n'y arrivons pas. » Fin de citation à cet après-midi.